France Inter. Bonjour, soyez les bienvenus sur France Inter. Être perçu comme beau, suffit-il à vous faire avancer dans la vie? La question peut sembler superficielle, mais elle ne l'est pas, parce que derrière ce qu'on appelle désormais le beauty privilege, le privilège d'être physiquement avantagé, se cache un biais très ancien et profondément ancré dans nos représentations. Dès l'Antiquité, on a associé le beau au bon, une belle âme dans un beau corps, disaient les Grecs. Et cette idée a traversé les siècles, aujourd'hui encore dans nos mots. Une belle personne ne désigne pas qu'un joli visage, mais une figure morale. Et à l'inverse, le vilain, c'est souvent à la fois le méchant et le laid. Certains chercheurs parlent d'un accès facilité à l'emploi, à un salaire plus élevé. Ils ajoutent même qu'à l'école déjà, les élèves jugés avenants sont mieux notés. Et jusque dans les tribunaux, l'apparence du prévenu peut jouer sur la sévérité de la peine. Faut-il y voir un avantage silencieux qui ne dit pas son nom, mais qui oriente les trajectoires? La question dérange d'autant qu'elle divise. Déjà, le privilege beauty dépend de ce qu'on entend par beauté, un concept aux critères subjectifs, changeant, dicté souvent par les dictats imposés par les sociétés occidentales, les époques et les modes. Et puis, certaines et certains, beaux selon les normes du moment, se disent eux-mêmes piégés par ce privilège. Ils sont vus avant d'être entendus, jugés avant d'être écoutés. La beauté peut se retourner comme un stigmate, surtout pour les femmes. Alors le privilège de la beauté, en est-il vraiment un? On en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
Hier, je suis sortie chez moi en vitesse et j'ai oublié mon pass Navigo. Et là, qu'est-ce que je vois? Les contrôleurs. Le mec, il me dit du coup, ouais, je t'ai vu sur le quai, je t'ai trouvé grave mignonne en plus, tu vas pas payer, mais donne ton snap quand même d'abord. Vraiment, le beauty privilège, il m'a évité une amende là. J'avoue, je suis contente.
Pour débattre de ce sujet brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir ce midi Nesrine Slaoui, vous êtes journaliste, essayiste et réalisatrice de documentaires. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Jean-François Dortier, vous êtes humanologue et fondateur du magazine Sciences Humaines.
Bonjour.
Et bienvenue également à Guillaume Vallet, professeur d'économie à l'université Grenoble-Alpes.
Bonjour.
Le privilège de la beauté est-il incontestable, Nesrine Slaoui?
Déjà, je pense qu'il y a un problème de définition parce que c'est un anglicisme, le beauty privilege, et en français, on parlerait plutôt de capital beauté, pour le coup. Si on veut s'inscrire dans la sociologie française, dans les théories bourdieusiennes et même s'inspirer de ce qu'a dit Eva Illouz sur le capital sexuel, je pense qu'il faut faire une distinction entre capital et privilège. Un privilège, c'est quelque chose qui est structurel et qui fait partie de votre vie quotidienne et qui même oriente toute votre vie quotidienne. C'est le fait d'être blanc, le fait d'être un homme, le fait d'appartenir à une classe aisée et le fait d'être hétérosexuel. C'est ça nos plus grands privilèges. En revanche, les capitaux sont des choses qui sont mobilisables dans certains contextes ou non, et qui donc sont malléables. C'est le capital culturel, le capital social, et il y a aussi évidemment des capitaux symboliques, comme la notoriété, et la beauté aussi en fait partie. Et c'est très important de faire cette distinction. Pourquoi? Parce que si la beauté était un privilège, elle n'aurait pas des inconvénients. À partir du moment où avoir un capital induit, notamment pour les femmes, je reviens sur le témoignage de la jeune fille qu'on a entendue, c'est de la misogynie. En fait, ce qu'elle a vécu, c'est pas du beauty privilège, c'est le fait, en tant que femme, d'avoir été réduite à son physique. Et c'est très problématique parce que dans des sociétés patriarcales où les femmes sont poussées avant tout à être belles, avant toute chose, si on les réduit à ça, on ne peut pas considérer que c'est un privilège. C'est au contraire une assignation. Parfois, c'est même une forme d'aliénation. Je pense qu'on va en parler quand on va parler du coût de la beauté dans nos sociétés contemporaines. J'ai fait un documentaire sur Kim Kardashian où on a montré le boom de la chirurgie esthétique et donc à quel point aujourd'hui, être belle pour une femme, c'est surtout un coût financier. Ça a un prix à payer beaucoup plus élevé que la beauté des hommes.
J'aimerais avoir votre réponse à vous, Jean-François Dortier. Le privilège de la beauté, le capital de la beauté, on va peut-être reformuler la question, est-il incontestable?
Pour moi, oui, il est incontestable. D'abord au sens où la beauté, l'attraction physique compte dans les relations humaines. C'est une question faussement futile que de parler de l'apparence. Ça compte beaucoup. Ça compte dès l'enfance, dès les classes de maternelle où les moches et les beaux sont distingués parce que les beaux sont plus populaires et les moches sont plus l'objet de harcèlement. Ça compte surtout à partir du collège, de l'adolescence, où là on va faire très attention à son physique parce que c'est important, notamment dans les relations d'amour, sur le marché de l'amour, dirait Houellebecq. Puis ça va compter dans le monde du travail, différemment selon les secteurs professionnels, bien sûr, les métiers de représentation, c'est pas la même chose que les métiers du bâtiment ou de la boulangerie, hein. Mais c'est très important. Et donc, ça a de l'importance en politique, et c'est globalement en faveur de la personne qui est belle, même si ça a évidemment quelques inconvénients dont on va parler, mais qui sont quand même des formes de souffrance plus plaisantes que celles de la laideur.
Et j'ai d'ailleurs encore un message ici d'une auditrice qui nous écrit ceci. Monique, à la télévision, le critère de beauté concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Aux 28 Exactement. Minutes sur Arte, sur France Info, les journalistes, présentatrices et chroniqueuses sont toutes d'une grande beauté, alors que c'est beaucoup moins le cas pour les hommes, pour lesquels cela ne semble pas un critère déterminant. Nesrine Slaoui.
Oui, et puis c'est tout le paradoxe. Pour le coup, intervenir sur les plateaux télé, effectivement, déjà la préparation des femmes en télé... est beaucoup plus longue en termes de maquillage, de coiffure, de tenue vestimentaire. On y réfléchit, c'est un coût mental pour les femmes de réfléchir à être belle, et selon évidemment, comme on l'a dit, des critères qui sont grossophobes, coloristes, etc. Je ne nie pas en fait la réalité des standards de beauté. Et ce qui est paradoxal, c'est que si vous êtes par exemple une femme journaliste en télé qui est présentée comme jolie, ça va vous décrédibiliser sur le sérieux. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent des études américaines depuis les années 70. Ils montrent que il peut y avoir un capital de beauté pour des métiers d'image, donc le mannequinat, la télévision.
On peut penser au journal, à la météo, pardon,
Exactement.
Sur Canal+, qui était présenté
Exactement.
Par des mannequins.
Ça peut être un capital symbolique mobilisable à ce moment-là, mais en revanche, si vous voulez être ingénieur, patronne dans des grandes sociétés, on va considérer que votre beauté en tant que femme est superficialité, et donc vous allez être moins prise au sérieux. C'est vraiment des études qui existent depuis, je les ai notées, mais elles sont très très longues à citer, mais ce sont des études qui existent depuis les années 70 aux États-Unis, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être un capital pour des métiers où l'apparence physique compte. Je pense par exemple à hôtesse d'accueil, qu'on a parfois fait dans nos jobs étudiants en tant que femmes. Mais en revanche, quand il s'agit de se présenter comme des êtres humains sérieux, comme des femmes compétentes, la beauté, en fait, c'est un désavantage.
Jean-François Dortier, selon vous, et dites-moi si je me trompe, mais l'esthétique est plus importante pour les femmes, mais c'est quelque chose qui remonte à loin.
Oui, d'abord, ce n'est pas tout à fait nouveau, hein, le culte de l'apparence. Aujourd'hui, il est marchandisé beaucoup plus qu'à une certaine époque, mais de tout temps, les femmes ont cherché à être belles, et dans toutes les cultures, elles ont pris soin à leur coiffure, elles ont pris soin à leur apparence, à leurs vêtements, à leur et au maquillage lorsqu'il existait. Donc très tôt d'ailleurs, les jeunes femmes ont conscience de l'importance de ce physique dans les relations humaines, et donc elles cultivent leur apparence globalement, et plus que les garçons.
Mais on ne constate alors, pas le sont... même genre de phénomène chez les hommes.
Comment alors? Attention, les garçons sont sensibles aussi, hein, ils aiment être des beaux gosses. Et vers l'adolescence aussi, on va cultiver plutôt la musculature, on va chercher à avoir un physique qui est avantageux. Mais effectivement, c'est moins...
C'est pas ce qui compte le plus.
Ça compte un peu moins. Et alors, d'une certaine façon, curieusement, les hommes, dans leur choix de partenaire, ils prennent beaucoup plus en compte le physique des femmes. Les femmes le font beaucoup moins pour les hommes. Elles sont d'une certaine façon plus intelligentes parce qu'elles font valoir d'autres critères qui sont des critères moraux, des critères de statut social aussi, hein. Dans leur choix.
Jean-François Dortier, je pense que vous souhaitiez aussi réagir.
Oui, par rapport à cette question de la norme unique. D'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis quelques années, quand même, la norme de beauté et c'est plus diversifié. On accepte des profils différents, y compris dans la publicité qui met en avant des grandes tailles, des personnes qui sont aussi d'un âge plus élevé. On le voit aussi beaucoup dans les séries télé, où les femmes ne sont plus les sexes symboles qu'elles ont été à une époque, et on a une grande variété. De ce point de vue-là, c'est une évolution qui est positive. Mais je reviens à ce que dit Nesrine, parce que je n'étais pas du tout d'accord sur cette idée qu'il y aurait un cliché systématique qui vous voudrait que si tu es belle, alors tu es bête. Sois belle et tais-toi. Ça,
non,
peut-être dans
bête.
Les années 70.
Juste réduite à
mais
ça.
En tout cas, réduite à cela. C'était pas le cas de Néfertiti. Vous avez cité le cas de Cléopâtre.
Elle a pas le même
mais
intérêt.
Elle est à la fois très belle, mais elle est reconnue également comme une femme intelligente, une femme d'influence. Et on trouve dans beaucoup aujourd'hui de métiers, y compris des responsabilités politiques, des femmes comme des hommes qui ont le souci de leur apparence et qui ne sont pas pour autant réduits par cela, par l'opinion, à leur seul critère physique.
Vous avez vu les réactions à l'Assemblée nationale à chaque fois qu'une députée met une robe ? Ça voilà. Suffit.
Ça a existé, mais vous
non,
avez aussi.
Ça a un impact sur les hommes. Macron est considéré comme beau, ça a eu un impact sur l'édition. Jordan Bardella est considéré comme beau, ça a un impact. Mais si une femme, notamment ministre ou députée, embrasse des codes de féminité, je ne parle même pas de codes de beauté, mais simplement des codes de féminité, à savoir des robes à fleurs, à l'Assemblée nationale, elle reçoit des messages extrêmement.
Attendez, vous avez quelqu'un comme Giorgia Meloni en Italie, qui est une femme, qui est une belle femme, on peut le dire, qui a été élue, et ce n'est pas au détriment de son corps. Et on n'a pas immédiatement pensé, tiens, c'est une belle femme, ou disons une femme d'une apparence.
Ce que je trouve très amusant en vous écoutant, c'est quand même qu'on évoque toujours les femmes.
C'est ça,
hommes.
En fait.
Non, bien sûr, les hommes
les
aussi.
Hommes. Et Guillaume Vallet, je vais me tourner vers vous, vous êtes au téléphone avec nous. Est-ce qu'on observe, je ne sais pas, est-ce que les normes évoluent au niveau du physique des hommes, vous qui vous êtes intéressé de près au bodybuilding?
Oui, elles ont évolué. C'est vrai que l'esthétique est de plus en plus mise en avant chez les hommes, mais ce n'est pas uniquement une esthétique pour elle-même. C'est une esthétique qui est présentée comme étant utile, un beau qui a été construit, un beau qui a été travaillé, qui renvoie un petit peu à l'adage « il faut souffrir pour être beau ». Et c'est dans ce cadre-là que le physique des hommes qualifié de beau est produit et renvoie à l'idée d'une certaine maîtrise, renvoie à l'idée d'un certain travail ou d'une santé. Donc tout un ensemble d'atouts qu'on va pouvoir mettre en avant sur le marché du travail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, vous avez tout un ensemble de nouveaux marchés qui investissent particulièrement les hommes. Le marché des compléments nutritionnels est en plein essor. Hein, 224 milliards de dollars, par exemple, au niveau mondial l'an dernier, ce qui est assez énorme. Des hommes se mettent aussi des crèmes pour apparaître plus jeunes, pour apparaître plus toniques, etc. On a aussi de plus en plus, comme l'indique le titre de mon livre, des fabriques, où on va dans un lieu spécifique avec l'intention de se construire, de créer de la beauté d'une certaine manière. Et puis on parlait tout à l'heure des plateaux télé, moi aussi je suis assez je dirais fasciné, interpellé par l'évolution des physiques des présentateurs masculins. On voit que, ne serait-ce qu'au niveau des dents en particulier, les dents sont vraiment mises en avant, elles sont vraiment équilibrées, elles sont toutes blanches. Et il y a tout un marché aujourd'hui, je dirais, de la construction dentaire de confort, on peut dire ça comme ça, qui est aussi en plein essor et qui est largement investi par les hommes. Donc oui, le rapport à l'esthétique, le rapport au beau des hommes a évolué, parce que pour moi, il renvoie à cette idée de corps en mouvement, de corps maîtrisé, et finalement d'une certaine attitude qu'on va pouvoir valoriser sur différents types de marchés.